Vous portez bien? Vous êtes prêts pour ce matin? Yes, OK. Alors, on est rendu à la huitième partie de la vraie nature du christianisme. Est-ce que vous vous levez ce matin comme ça? Un peu? Hein? À quoi ça vous fait penser, quelqu'un qui a une réaction comme ça? Pensez-vous qu'elle est surprise, qu'elle est contente? Non, hein, il y a quelque chose qui semble l'effrayer. Alors, est-ce que c'est ça le vrai christianisme? Ça nous fait peur? Vous savez, dans ces derniers temps, là je parle du christianisme au sens large, on a une très mauvaise presse présentement au Québec et au Canada avec tout ce qui s'est passé dans l'histoire du Canada. Et le christianisme et les ravages que certaines décisions avec le politique ont entraîné, et puis c'est pas joyeux de voir cette réputation, malheureusement, de l'abus de pouvoir que certaines personnes qui ont représenté un aspect, en tout cas, de qu'est-ce que c'est le christianisme, à quoi ça devrait ressembler. Et puis malheureusement, ça a été plutôt l'inverse, ça a été un vrai scandale. Et Jésus nous avait averti d'ailleurs qu'il y aurait des scandales malheureusement, et on en est témoin de ça. Puis des fois, on pourrait dire, ah ben c'est plus le catholicisme qui nous fait une mauvaise presse parce qu'il fait partie du christianisme, mais vous savez, malheureusement, même dans le milieu protestant, il y a beaucoup de scandales aussi qui arrivent, même au Québec, au Canada, aux États-Unis. C'est monnaie courante et c'est vraiment désolant. Et je vous ai déjà cité un auteur qui s'appelle Michael Horton, qui est un théologien, un enseignant évangélique et réformé dans sa théologie. Et puis, son livre qu'il a écrit, c'est... un Christian, en anglais, là, je vais vous le citer en français, mais un christianisme sans Christ. Et lui, c'était son observation, son constat. Et là, il parle particulièrement du côté américain, étant lui-même un Américain. Et dans le fond, son livre était pour nous inciter à revenir à un christianisme avec Christ, parce qu'il ne devrait pas y avoir de christianisme sans Christ. C'est une aberration. Et là, je vais vous citer, là, je l'ai traduit en français. Il dit ceci. Paul a dit, dans 2 Corinthiens 4, 5, « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. » Donc, on voit qu'il ramène clairement que mon message, ça n'a rien à faire avec nous autres, à qui on est, qu'est-ce qu'on a à offrir. Non, nous autres, ce qu'on parle, ce qu'on proclame, ce qu'on annonce, c'est Jésus-Christ. Et puis, il va même dire à un moment donné, « Je ne veux pas savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » C'était le message de l'apôtre Paul. Et là, il continue en disant, « Nous savons que nous sommes encore des pécheurs. Nous savons que nous ne sommes toujours pas en mesure d'atteindre les standards divins à 100%. » C'est exactement pour cela que nous avons besoin de Christ. Et là, il dit ceci, « Un changement vraiment radical dans notre approche serait de proclamer Christ comme étant celui qui a accompli la loi à notre place, qui a porté notre condamnation et qui nous donne librement, gratuitement, le pardon de nos péchés. » Ce n'est qu'alors, ironiquement, que nous serons vraiment libérés et capables d'aimer à nouveau. Et là, il dit, je termine avec ça, dans la grande majorité des églises américaines contemporaines, donc actuelles, le message essentiel, c'est-à-dire celui qui revient souvent, celui qui est enseigné régulièrement dans les églises évangélique en Amérique, aux États-Unis, est sous une forme de loi. sans aucune proclamation de l'Évangile. Ça ressemble à quoi un message qui est sous une forme de loi? Et vous savez, la tentation de proclamer un message avec une forme de loi, elle est encore plus grande lorsqu'on enseigne l'Ancien Testament. Et c'est tout un défi pour les prédicateurs qui enseignent l'Ancien Testament de le faire à la lumière du Nouveau Testament et non pas simplement avec l'histoire de l'Ancien Testament. Parce qu'à un moment donné, ça devient la morale, ça devient des enseignements, des choses à faire pour arriver à. Et là, c'est ça qu'il dit ici pour expliquer qu'est-ce qu'il veut dire par une forme de loi. Il dit, ce qu'on entend, c'est « faites ceci et vous vivrez ». Faites ceci et vous serez bénis. Soyez des David. Soyez des Joseph. Soyez des Josué. Et là, au lieu de dire, quoi? Soyez comme Christ ou soyez ce que Josué a été dans le fait qu'il a mis sa confiance en Dieu et qu'il ne mettait pas sa confiance en lui-même. Et là, ça va déjà dans le sens de la proclamation de l'Évangile. Et là, il dit, voici ce que est la proclamation de l'Évangile. Voici ce qu'on devrait entendre régulièrement, constamment, jamais entendre la parole de Dieu sans qu'on revienne à cet aspect fondamental de ce que c'est le christianisme, en fin de compte. Et c'est ceci. Voici ce qui a été fait pour vous, par Christ, pour que vous viviez et que vous soyez bénis. Voyez-vous la différence entre voici ce que vous devez faire si vous voulez que Dieu soit de votre bord, si vous voulez avoir la bénédiction, si vous voulez avoir une vie heureuse, et dire, mais voici celui qui a fait pour vous ce que vous ne pouviez pas faire, et grâce à lui, vous pouvez maintenant être béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Et ça, c'était même avant la fondation du monde, parce que lui l'a fait pour vous. Et là, maintenant, mettez votre confiance en lui. Suivez-le, lui. Voyez la différence? Elle est énorme. Elle est importante. Et c'est pour ça qu'en Romains 8, 31 à 34, Paul parle ici de la protection de Dieu pour ses enfants. Cette protection divine est une protection même tout risque. Ce qui veut dire que rien ni personne ne peut nous priver de sa bienveillance, la bienveillance de Dieu, de la grâce de Dieu, de la justification qu'on a en Jésus-Christ et de son plein pardon envers nous. Rien ni personne. Cette vérité d'une protection divine tout risque représente une réalité, une vérité incontournable de la vraie nature du christianisme. Les versets 31 à 34 ont été écrits pour nous assurer de la protection de Dieu face aux nombreux dangers qui nous guettent. Étant unis à Christ, rien ni personne ne peut remettre en question notre statut d'enfant de Dieu. Rien ni personne ne peut remettre en question notre statut d'enfant de Dieu une fois unis à Christ. Personne ne peut remettre en question le fait que nous sommes graciés, que nous sommes rachetés, que nous avons été justifiés en Jésus-Christ. On peut dormir sur nos deux oreilles, car le Seigneur veille et il intercède pour nous. Donc, aucun souci, j'aurais pu écrire aucun danger. Aucune crainte. Romains 8, 31 à 34. Et voilà pourquoi notre union avec Christ nous assure une entrée au ciel, une rémission de nos péchés, une réconciliation avec Dieu et une protection mur à mur. Il n'y a rien de meilleur. En Jésus-Christ, si vous avez reçu Christ comme votre sauveur personnel, si vous êtes en lui, eh bien, vous avez cette protection mur à mur de Dieu. Vous avez cette garantie, cette assurance, nous dit l'apôtre Paul. Donc, c'est pour ça qu'on peut reprendre la phrase célèbre de Paul. Vous vous souvenez du premier, La première vérité de la vraie nature du christianisme, c'est qu'il n'y a aucune condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Christ. Et là, on peut dire, il n'y a donc maintenant aucun souci, aucun danger, aucune crainte pour ceux qui sont unis à Christ. Et là, voici le texte. Romains 8, 31 à 34. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si, ou encore, on pourrait traduire, parce qu'ici, ce n'est pas un si conditionnel. Ici, c'est un si qui assume la vérité, c'est-à-dire, étant donné que Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dites-moi-le. Répondez-moi. Personne. Si Dieu est pour nous, c'est-à-dire si Dieu nous a donné sa faveur, si Dieu nous a donné son sceau d'approbation, qui peut dire la différence? Un juge? La Cour suprême du Canada? Donald Trump? Non! Personne. Pourquoi? Parce que Dieu est l'être suprême. Dieu est le juge des juges, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il n'y a personne au-dessus de Dieu. Et si Dieu te dit que tu es sans aucune condamnation, sans aucun souci, sans aucune crainte, sans aucun danger, que quelqu'un vienne te soutirer ce que lui t'a donné, c'est-à-dire ton statut d'enfant de Dieu, de racheter, de gracier, mais rien ni personne ne peut vous enlever ça. Pas même vous-même. Imaginez-vous, des fois on pense que nous-mêmes, on pourrait s'enlever ça. Non, rien ni personne. Lui qui n'a pas épargné son propre fils. Et quand est-ce qu'il a fait ça en passant? À la croix, mais quand est-ce qu'il l'a fait? On dit il y a 2000 ans. Est-ce que vous étiez en bon terme avec Dieu? Non. Autrement dit, quand on était encore des pécheurs, Dieu n'a pas épargné son propre fils. Mais il l'a livré pour nous tous qui étions des pécheurs, condamnés, incapables de se sauver, incapables d'impressionner Dieu, de faire quoi que ce soit qui aurait pu permettre à ce que Dieu dise « OK, t'en as fait assez ». Non. Comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Par grâce. Voyez-vous le raisonnement ici de l'apôtre Paul? Si Dieu a fait ça quand on était des pécheurs, puis il n'a pas épargné son propre fils pour qu'il puisse venir nous chercher puis nous pardonner de nos péchés, mais comment est-ce qu'il ne va pas faire tout pour nous autres? C'est pour ça qu'on n'a aucun souci. Non, je comprends, vous allez me dire, mais Benoît, j'en ai des soucis, là. J'en ai des craintes. Je lutte avec des soucis, je lutte avec des craintes. Je vous comprends, je suis comme vous. Mais la vérité du christianisme, c'est qu'on n'a pas raison d'avoir nos soucis. C'est pour ça que Paul nous dit, « Déchargez-vous sur lui de quoi? De tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Allô? Ah non, je comprends, là. Hein? Je comprends très bien. Je suis un être humain et je vous dis, je lutte avec vous de la même façon. Et je reviens à quoi? À la vérité fondamentale du vrai christianisme. Non, Benoît, Christ est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est pour toi. Tu n'as pas à avoir de soucis. Et qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Qu'est-ce que vous faites, vous autres? Bien, j'essaie de faire ce que Paul nous dit de faire. Déchargez-vous! Alors, j'essaie de me décharger, puis des fois, je demande la grâce à Dieu, je le supplie. Je sais même pas pourquoi je suis pas capable de, puis ça me revient dans ma tête, ça prend mon âme, mon cœur, mes tripes et tout ça. Et là, le Seigneur vient à mon aide, vient à mon secours. Mais j'y vais pas par moi-même, j'essaie pas de régler. J'ai déjà fait ça, là, d'essayer de régler mes soucis par moi-même, faire des appels, appeler, faire ceci, cogner à des portes, ainsi de suite. Ça, c'est ma tendance naturelle. On a tous cette tendance naturelle-là. Mais Dieu nous dit, bien, pourquoi tu ne viens pas à moi? Viens à moi. Moi, je suis là pour ça. Moi, je vais y prendre tes soucis. Puis je vais être capable de, je pense, faire de quoi avec. Tu sais, j'ai des ressources. J'ai des capacités, moi. Il y a des choses que j'ai des contacts. J'ai des numéros de téléphone. J'ai des endroits où je peux faire appel. Puis je pense que je peux faire de quoi pour t'aider. Ça te tente-tu? Hein? Alors, c'est ça. Et là, ensuite, il dit, qui accusera les élus de Dieu? Qui? Pourquoi? Mais c'est Dieu qui est celui qui justifie. Ah non, maintenant je comprends qu'il y en a qui nous accusent. Et je ne dis pas que ça ne se fait pas. Mais Paul dit, ultimement, ça ne sert à rien. T'as beau accuser, j'ai beau m'accuser, le diable a beau m'accuser, parce qu'ici on aurait pu mettre le diable, lui, il nous accuse. Il le fait, le diable, puis il nous rappelle des choses. Il nous rappelle qu'on n'est pas digne, puis il nous rappelle que, hey, à un moment donné, là, Dieu doit t'amener, là. Ça fait combien de fois qu'il vient à ton secours? Penses-tu qu'à un moment donné, il voudrait que tu t'arrêtes de... Ouais, c'est vrai que peut-être que... Puis... Non, non. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Jésus-Christ est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Pour ceux qui ont été justifiés, pour ceux qui ont été graciés, pour ceux qui ont été pardonnés, pour ceux que Dieu a mis son sceau d'approbation dessus, il intercède pour nous. Pourquoi penser qu'il intercède pour nous? Parce qu'il sait très bien que on en a besoin, n'est-ce pas? Mais c'est réconfortant, on va voir ça tantôt. Alors, plusieurs vérités, belles vérités dans ces versets. Premièrement, Dieu est pour nous, ça veut dire qu'il est à 100% de notre bord, verset 31. À 100% de notre bord. Peu importe ce qu'on fait, mettez-vous dans la peau de papa ou de maman, là, si vous avez des enfants. Hein? Peu importe ce que nos enfants vont faire, on n'approuve pas, mais on est de leur bord. On va être là pour eux autres. Pensez-vous que Dieu est différent avec nous autres? Absolument pas. Dieu est à 100% de notre bord, verset 31. Cette vérité est mentionnée à plusieurs endroits dans l'Ancien Testament, dont le psaume 46. Et dans ce psaume, il y a trois couplets, versets 1 à 4, versets 5 à 8 et versets 9 à 12. Premier couplet, ça dit essentiellement ceci, « Dieu est pour nous et par conséquent, il est de notre côté. » Et vous savez, pour le peuple juif dans l'Ancien Testament qui se faisait constamment pourchasser, qui devait se battre, qui avait des ennemis et ainsi de suite, de savoir que Dieu était pour eux, ça veut dire qu'il était de leur côté, c'était tout un réconfort, c'était toute une assurance, c'était toute une grâce. Deuxième couplet, versets 5 à 8, Dieu est non seulement pour nous, mais Dieu est avec nous. C'est-à-dire, c'est comme s'il descend, puis il vient combattre avec nous, parce qu'il est notre bord. Donc, il vient et il se mouille, Dieu se mouille, il vient du côté d'Israël, et il vient avec nous, et par conséquent, il est à nos côtés. Alors, on ne va jamais confronter les situations toutes seules. Dieu est pour nous et Dieu est avec nous. Et là, le dernier couplet, ça répète simplement les deux premiers. Oui, Dieu est avec nous, à nos côtés, et Dieu est pour nous, de notre côté. Et là, c'était le réconfort. Donc, le message principal de ce psaume est que Dieu procure la stabilité et la sécurité à son peuple, malgré l'instabilité de la nature environnante, les versets 2 à 4, et malgré l'instabilité des nations environnantes ou menaçantes, versets 5 à 12. Maintenant, est-ce que l'Évangile dans ce psaume? Est-ce que l'Évangile va plus loin que dire Dieu est pour nous puis est avec nous? On va voir ça tantôt. Deuxièmement, personne ne peut ultimement et avec succès être contre nous. Et par conséquent, on est inébranlable. Maintenant, je comprends encore là qu'on peut se faire brasser la cabane, la persécution, ça existe, des mauvais traitements parce qu'on a un témoignage chrétien, ça existe. Même Paul dit, si on veut vivre pieusement pour Jésus-Christ, on va être persécuté, on va faire face à la souffrance, à des contraintes et tout ça. Mais ultimement, et avec succès, ça, Jésus disait, ne craignez pas ceux qui quoi? ceux qui peuvent s'attaquer à vous, à votre réalité physique sur la terre, vous enlever vos biens, vous faire souffrir, même vous enlever la vie. Ne les craignez pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas aller plus loin que ça. Craignez celui qui, par contre, lui, a le pouvoir non seulement sur votre corps, mais sur aussi votre être intérieur, sur votre vie, sur votre destinée éternelle. Parce que pour nous, la destinée éternelle est plus importante que les réalités physiques, les biens qu'on peut avoir, les choses qu'on possède, l'aisance et toutes ces affaires-là. 1 Pierre 5,10 dit ceci, « Le Dieu de toute grâce, qui, en union avec Christ, vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, donc Pierre avertissait les croyants, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » Et ça, c'est là que c'est merveilleux quand on est un enfant de Dieu, qu'on est uni à Christ, qu'on connaît la vérité de l'Évangile, c'est que là qu'on sait que toute chose, comme on a vu, il n'y a aucun hasard. Dieu utilise toute chose pour nous rendre semblables à son Fils Jésus-Christ. Et là, ici, on voit 4 grâces que Dieu nous fait vivre dans notre union avec Christ, selon 1 Pierre 5,10. La première, c'est qu'il va nous former lui-même. Étant donné les circonstances difficiles dans lesquelles on est, Dieu va nous former lui-même, c'est-à-dire qu'il va nous rendre spirituellement plus complet, mature. Deuxième chose, il nous affermira lui-même. Donc, Dieu nous entreprend, il va nous rendre émotionnellement plus fermes face aux situations difficiles. On va être capable de passer à travers ces choses-là plus facilement, parce que là, tout à coup, on sait que Dieu est là et on s'attend à lui. Troisième chose, il va nous fortifier lui-même. Donc, il va nous rendre aussi moralement plus fort, plus résistant face à la tentation, par exemple. Et je ne sais pas si vous avez constaté ça, dépendamment combien de temps vous êtes au Seigneur, mais il y a des choses peut-être que vous dealiez avec au début de votre vie chrétienne qui étaient difficiles. Moi, je me rappelle, par exemple, la lutte avec la cigarette ou avec la marijuana ou avec d'autres activités que j'avais je savais que Dieu voulait que j'arrête, là, mais c'était compliqué, c'était dur, ça me lâchait pas, c'était constamment après moi. Maintenant, là, j'arrive à ma retraite bientôt, m'a recommencé à fumer, m'a recommencé à faire de la marijuana. Mais non, pourquoi je retournerais à ces affaires-là? Je suis libéré! Je suis heureux! Ben oui, je suis heureux d'être libéré de ces choses-là. Dieu, il ne nous enlève pas des bonnes choses. Dieu nous enlève les choses qui sont pas bonnes, autant physiquement que moralement et spirituellement. Donc, une chose est sûre, c'est que Dieu nous rend plus résistants, plus forts face à la tentation, face au péché, face à la chair. Et la quatrième chose, donc, il nous forme, il nous affermit, il nous fortifie. Et là, il dit même, il va même jusqu'à dire, il va nous rendre lui-même inébranlable. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, inébranlable? Wow! Là, ça veut dire qu'il va nous rendre autant spirituellement, émotionnellement que moralement stable. Hein? On va être de moins en moins inébranlable. Moins, comme ça dit dans Éphésiens 4, fragile à tout vent nouveau de doctrine. Et là, tout à coup, il y a une nouvelle. Peut-être que. Non. On est bien ancré dans qu'est-ce que c'est le vrai christianisme, et je ne me laisserai pas emporter ou aller à tout vent de doctrine, à toute situation qui risque de m'éloigner de Christ, d'avoir un christianisme sans Christ. Non, ce n'est pas vrai. Dieu m'a affermi. C'est Dieu lui-même qui nous protège et qui prend notre défense au sein même de l'adversité. Et là, ici, j'ai déjà cité l'exemple de Joseph dans l'Ancien Testament, comme Genèse 45, 4 à 8 et Genèse 50, 19 à 21, où même Joseph reconnaît que Dieu était avec lui, qu'il l'a protégé, qu'il a pris sa défense et qu'il a utilisé tout le mal que ses frères lui ont fait pour finalement l'emmener là où il était. Il reconnaît ça, il rend grâce à Dieu. Il dit, pas d'amertume dans mon cœur, au contraire, je suis tellement content de voir la main de Dieu sur ma vie, malgré ce que j'ai vécu, malgré les injustices, malgré les circonstances, malgré le mal que vous m'avez fait, j'ai aucun désir de me venger. Ça, c'est dans cette vérité que Dieu lui-même est avec moi, il me protège et prend ma défense au sein de l'adversité. Quatrième chose, Dieu le Père n'a pas épargné son propre Fils pour que nous, des pécheurs, puissions devenir ses enfants. Et là, ici, j'ai acte 9, 4 à 5. Parce que ce qu'on voit, c'est que Jésus est tellement uni à nous. Puis là, si je pourrais remplir l'exemple de, peut-être, qui n'est pas parfait, là, mais l'exemple d'un couple, l'exemple d'une famille, de parents avec des enfants. On est, surtout quand il y a eu, il y a de l'harmonie, il y a de l'amour, il y a quelque chose d'un vécu là, ensemble, serré. Mais Jésus, d'autant plus, à cause qu'on est unis à lui, il ressent notre souffrance, littéralement, là. Il la ressent dans son cœur, il la ressent dans son âme. Lorsqu'on souffle, là, lorsqu'on va pas bien, lorsqu'on est éprouvé, là, il est vraiment tellement compatissant, comme on a vu dans la vraie nature de Jésus, un cœur tendre, un cœur doux, un cœur aimant, compatissant. Il ressent notre souffrance et il s'identifie à ce qu'on vit. Ce qu'on vit, il le vit. Ce qu'on nous fait, il le ressent. Il est tellement proche de nous. On est tellement un avec lui que c'est ça la vérité. Et c'est pour ça que Actes 9, 4 à 5, on dit ceci en parlant de Paul, qui justement persécutait les chrétiens parce qu'il était un pharisien, un fanatique et tout ça. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, parce que Paul s'appelait Saul avant de venir à Christ. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pardon? Pourquoi me persécutes-tu, moi, Jésus? Il demanda, mais Seigneur, qui es-tu? Et le Seigneur dit, moi, je suis Jésus que tu persécutes. Et là, on sait qui persécutait. Naturellement, il persécutait les chrétiens, ceux qui étaient des disciples de Jésus. Et là, Jésus, ici, il montre à quel point il est avec ceux qui sont les siens. Et il partage leurs souffrances, leurs persécutions, leurs douleurs, leurs épreuves, leur vie, leur état émotionnel et tout ça. Il est là. Puis on sait quand Étienne a été lapidé, justement, par Saul de Tarse, et que là, le ciel s'est ouvert, puis qu'Étienne a vu Jésus à ce moment-là. Et imaginez-vous là, comment ça a changé l'expérience d'Étienne qui voyant Jésus en train de l'accueillir. Et c'est fort possible, selon les témoignages qu'on entend de plusieurs chrétiens qui, dans les derniers moments, avant juste de passer de ce monde au suivant, de notre monde au monde de Jésus dans l'éternité, que cette fenêtre peut-être s'ouvre aussi. Et que là, tout à coup, nos yeux qui... Hein, on est terre à terre, nous autres, on est concret, on a de la misère à voir le monde spirituel, la réalité spirituelle et tout ça, mais que là, tout à coup, nos yeux s'ouvrent, il y a quelque chose qui se passe. Et souvent, pour avoir visité plusieurs personnes en fin de vie, et Linda Gallo, pas si longtemps, c'est exceptionnel de voir ce qui se passe tout à coup dans notre relation avec Dieu. Tout à coup, comment le cœur s'ouvre. Tout à coup, comment qu'on se détache de tout le reste, qui c'est pas important. Tout à coup, comment qu'on a des regrets. Des regrets de ci, de ça. Tout à coup, parce que là, on réalise à quel point c'est important, ma foi en Jésus. À quel point c'est spécial de lui appartenir, d'avoir l'espérance de la vie éternelle. Et là, c'est toute une autre réalité qu'on vit à ce moment-là. Cinquièmement, Jésus-Christ lui-même est assis à la droite de Dieu et il intercède pour chacun de nous. Ça, c'est dans le verset 34. Puis un verset parallèle qu'on pourrait dire qui nous montre la même réalité que Jésus est là puis intercède pour nous dans Hébreux 7, 24, 25 qui dit ceci. Mais Jésus, lui, parce qu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce perpétuel. Voilà pourquoi il est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. Et là, il y a une citation justement de un chapitre, en fait le chapitre 8 dans le livre « Doux et humble de cœur ». Et en passant, s'il y en a qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir le livre, il nous en reste encore quelques copies, venez me voir, ça va me faire plaisir de vous en remettre une copie tout à fait gratuitement. C'est un bon livre à lire et à relire. Et c'est bénissant pour le cœur, ça nous ramène justement à la vraie nature du christianisme et à la vraie nature de celui qui est l'auteur du christianisme, le Seigneur Jésus lui-même. Mais il y avait une question dans le guide qui était sur justement Hébreux 7, 25, où il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Que signifie le fait que Jésus intercède en notre faveur? Qu'est-ce que ça veut dire ça? En quoi cette vérité qu'il intercède en notre faveur, parce qu'on est unis à lui, parce qu'on lui appartient, vous apaise-t-elle? Hein? Aucun souci? Aucune crainte? Vous apaise-t-elle et vous rassure-t-elle en ce moment? Ça vous fait quoi, ça? Et moi, j'ai répondu, puis je vais vous donner ma réponse. Mais ça devrait nous faire quelque chose. C'est sûr que le fait que la question était posée m'a amené à juste prendre un temps de réflexion, puis dire, ouais, ça, le fait qu'il intercède, je n'avais pas pensé à ça. En fait, je ne pense pas souvent à ça. Je pense plus depuis ce temps-là, mais avant, je ne pensais pas tellement à ça. Tu sais, souvent, on demande à quelqu'un, peux-tu prier pour... Ou quand il y a une situation difficile, on demande à nos frères et sœurs, à notre groupe maison, peux-tu prier pour telle, telle chose? Puis là, de réaliser que Jésus, lui, puis même, il connaît la requête comme faut, là. Parce qu'on sait, on a vu dans Romains 8, que même des fois l'Esprit transcrit notre requête de prière, qui n'est pas tout à fait la bonne, qui n'est pas tout à fait à la bonne place, et là, l'emmène par des soupirs inexprimables au trône de Dieu. Mais Jésus, lui, c'est sûr que s'il intercède pour nous, il intercède pour exactement la bonne chose. Parce que quoi, on a vu tantôt, il veut nous former, il veut nous affermir, il veut nous fortifier, puis il veut nous rendre inébranlables. Et on a vu dans Romains 8, il veut qu'on soit semblable à lui, qu'on arrive là, spécial, là. Avoir un cœur doux et humble comme le sien. Wow! C'est tout, hein? En tout cas, dans ma vie à moi, là, d'avoir un cœur doux et humble, là, c'était tout un projet de vie là, pour Dieu. Mais il a fait un certain travail. Il en reste encore. Mais c'est ça qu'il veut. Alors, qu'est-ce que ça fait? Voici ce que était ma réponse. Elle m'aide à comprendre à quel point son intercession est la clé dans ma vie de croyant. Puisqu'il est toujours là, puis là, j'ai écrit en anglais, « He's got my back! » Pour me soutenir, il est toujours là pour me soutenir et pour intercéder en ma faveur auprès de son Père. Jésus, là, il est de mon côté. Vous comprenez? Comme il est du vôtre. Il est pour vous, pas contre vous. Il veut votre bien, pas le contraire. Il veut vous emmener là où vous avez besoin d'être et vous allez être tellement heureux d'être là où il veut que vous soyez. Parce qu'il sait que là où il veut que vous soyez, c'est ça qu'il vous a destiné à être. Et ça, c'est spécial. Ça, c'est la meilleure place qu'on peut être. Et là, naturellement, il travaille pour avoir notre collaboration, pour qu'on le laisse faire. Et même si on ne le laisse pas faire, il est patient. Hein? Puis des fois, il va nous ramener dans une même situation, dans un même endroit. Pourquoi il nous ramène dans un endroit qu'on ne veut pas être, qu'on n'aime pas être? J'aime pas être dans cette position-là. Si c'était que de moi, je ne serais plus jamais là. Puis là, des fois, il y en a qui disent, moi, je ne ferai plus jamais confiance à personne. Pourquoi je ne veux pas faire confiance à personne? Ben, j'ai été déçu. Puis là, d'avoir été déçu, ça m'a emmené à, je ne veux plus vivre ça. Puis quoi, qu'est-ce qui arrive? Ben, on leur vit. Pourquoi vous leur vivez? Pourquoi vous êtes encore déçus? Ben, c'est des pécheurs, là. C'est des gens imparfaits. Mais Dieu, il y a un but avec ça. Pourquoi vous vivez des injustices? On ne devrait pas vivre des injustices. On est des bonnes personnes! Des bons citoyens, comme moi, quand je me suis fait construire à Québec, j'ai fait tout selon les règles de l'or. Jamais rien en dessous de la table. J'ai vécu des affaires, mes amis, que d'autres n'ont pas vécu, qui n'ont pas fait la même chose que moi. Pourquoi je vis ça? Moi qui veux vivre droitement devant Dieu et devant les hommes. Eh bien, Dieu veut me former, il veut m'affermir, il veut me fortifier, puis il veut me rendre inébranlable. Et pour ça, il sait que Benoît Laverne a besoin d'être confronté à une situation qui va venir le chercher profondément. Qui va venir que là, Benoît va prendre toutes les ressources qu'il connaît dans sa vie, toutes les personnes avec qui il est en contact, puis il va en chercher partout, partout où il y en a, qui peuvent venir puis régler le problème qu'il vit puis l'injustice qu'il vit. Et là, il va frapper à toutes les portes qui existent sous le soleil, puis il va appeler toutes les personnes qu'il peut appeler pour que quelqu'un trouve une solution à son problème. Puis là, après X semaines, X mois, X numéro de téléphone, X contact, il va arriver où, Benoît? Il va arriver devant un mur et il n'y a plus personne à appeler. Il n'y a plus aucun recours possible. Puis il est encore avec le même problème. Et là, il capote. Il perd 50 livres. Il n'en dort plus. Il n'est plus capable de manger. Ça le pogne aux tripes. Et là, Benoît est assis un dimanche matin. Il entend un message dans l'Ancien Testament. Et là, il comprend que Dieu a un rendez-vous avec lui. Et que là, Dieu lui dit, « N'as-tu fait assez? As-tu cogné à cette porte? As-tu appelé à cette personne? Puis t'es rendu où, là? Ah, Seigneur, je suis rendu au bout du bout. Là, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus où aller. Seigneur, j'ai fait de mon mieux. Il y a une chose que tu n'as pas faite, mon Benoît. Hein? Tu n'as pas lâché prise. Tu ne m'as pas donné ta maison. Oh, mais Seigneur, c'est pour toi que je faisais ça. Je voulais t'honorer. Je voulais être un bon témoignage. Démontrer que je suis un responsable de mes finances. Que je fais les choses droitement, correctement. Oui, j'ai vu ça. Mais moi, Benoît, je veux ton cœur. Et là, je me rappelle, j'ai levé ma main, j'ai ouvert ma main. J'ai dit, Seigneur, prends la maison, je te la donne. Je veux que tu sois le premier dans ma vie. C'est correct. Et à partir de là, aucun souci. Là maintenant, Seigneur, c'est ton affaire. Moi, je me confie en toi. Si je la perds, ma maison, parce qu'elle ne vaut plus rien, elle ne vaudra plus rien, c'est correct. J'accepte. J'accepte ta volonté. J'accepte que c'est à toi maintenant. Moi, je suis juste un ton enfant, puis c'est comme ça, c'est comme ça. C'est correct. Là, Seigneur, je te fais confiance. Et qu'est-ce qui est arrivé? Vous rappelez-vous? Le Seigneur m'a appelé ici à Trois-Rivières. Mais moi, ma maison n'était pas vendue, là. J'avais un gros problème, ma maison. Il y avait des problèmes dans ma maison. Vas-tu être capable de vendre ça, cette affaire-là? Bon, Seigneur, aucun souci. Je la remonte tes mains. Je ne sais pas s'il y en a qui me disaient qu'ils se rappelaient quand j'étais arrivé avec ma pancarte, parce que je l'avais vendue moi-même. Il n'y avait même pas du proprio dans ce temps-là, cette affaire-là. J'avais fait une pancarte là, avec un plastique par-dessus. Puis après ça, j'ai mis « vendu ». Vendu! Incroyable! Puis là, je n'ai pas le temps de vous conter tout ça, mais comment Dieu s'y est pris pour vendre ma maison, juste en soi, c'est une histoire merveilleuse, que j'aurais pas pu inventer ça, j'aurais pas pu penser à ça, mais Dieu l'a fait. Puis encore là, je t'ai pris, parce que là, mon voisin dit, « Mais là, dis pas tout ce que tu as vécu avec ta maison, tu la vendras pas! » Là, j'ai dit, « Guy, tu sais qui je suis? » Moi, je peux pas ne pas dire tout ce que j'ai vécu dans ma maison. Moi, je vais tout dire ce que j'ai vécu. Ben, t'es malade. Non, je suis pas malade. J'ai confiance en Dieu. Ah! Et savez-vous qui a été mon agent d'immeuble? Mon voisin. C'est lui qui a trouvé mon acheteur. C'est lui qui l'a préparé, qui lui a tout dit, puis il l'a mis en confiance. Puis quand il est venu chez nous, ben, j'ai tout déballé. Et après ça, il m'a dit, OK. OK? OK. Ah! Moi! Moi! J'ai su l'histoire par après. Mais là, moi, j'étais surpris sur le coup. Je dis, Seigneur, t'es vraiment spécial, là. C'est incroyable. Le gars, il a même pas posé une question. Il a rien dit. Il a pas eu peur. Il a pas eu de crainte. Il s'est pas posé. Il s'est pas... Puis là, c'était avec une garantie légale, en plus. Imaginez-vous. C'est incroyable. Et c'est merveilleux. Et le comble de l'histoire, c'est que je l'ai revu à peu près un an. On est retourné à Québec, des choses qu'on avait oubliées, on voulait voir qu'est-ce qu'ils avaient fait dans la maison, c'était une maison neuve aussi, tatata. À notre goût, on l'avait tout choisi, en tout cas, blablabla. Et là, il me dit, tu sais pas quoi, Benoît? Il dit, non. Il dit, à un moment donné, il y a une grosse pluie abondante. Là, on monte dans notre chambre des mètres en haut, c'était un cottage anglais, deux étages, il y avait une grosse boule au-dessus du lit. C'est pas sérieux? Ben oui, il dit, l'eau s'est infiltrée, tatata. Mais j'ai vu que c'était la première fois que ça arrivait, que tu m'avais pas caché ça. Ben, il dit, non, si je l'avais eu, je l'avais dit. Mais là, il dit, c'est incroyable. Quelle maison. Hein? On dit une maison de fou, là, ben c'est quasiment ça. Mais tout ça pour vous dire que le Seigneur, il intercède en notre faveur, puis quand il intercède pour notre bien. Puis c'est là où il veut nous emmener. Son intercession fait toute une différence dans ma sanctification. Et là, j'ai compris ça. Là, j'ai fait des liens. OK, c'est ça, Dieu veut m'affirmer, il veut me former, il veut me fortifier, il veut me rendre inébranlable. Donc, quand il intercède pour moi, pour nous, puis si on remet ça avec Romains 8, avec le Saint-Esprit qui, par des soupirs inexprimables, justement, veut nous emmener là où on a besoin d'aller, c'est-à-dire vers la ressemblance de Christ, ah là, ça fait du sens. Alors, dans le fond, le Seigneur, il intercède pour moi parce qu'il, lui, il poursuit ma sanctification. Fait que saviez-vous ça? Fait que, attachez votre tuc. Dieu, il poursuit votre sanctification. Il veut vous former. Et là, mon conseil, là, savez-vous c'est quoi mon conseil? Hein? Vous autres, là, les autonomes, les orgueilleux, les autosuffisants, les Benoît Lavergne, hein? Lâchez le morceau. Je vous le dis, là. Parce que si vous ne lâchez pas le morceau, ben ça va revenir, cette affaire-là. Moi, je n'ai plus jamais revécu ça, là, avec une autre maison, là. Hein? Et pourquoi? Le Seigneur a dit, écoutez, tu as compris. Ce que tu avais besoin de comprendre, tu l'as compris. J'ai vécu d'autres choses. Il y avait d'autres choses que j'avais besoin de comprendre. Et il y en a encore. Mais vous comprenez, plus on accepte la leçon de Dieu, plus on se laisse enseigner. Quand Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, assisez-vous à mon école et recevez mes instructions. Hein? Il nous enseigne. Il veut qu'on s'enseigne les uns les autres ses voies. Hein? Dans Matthieu 28, qu'on puisse s'encourager les uns les autres. Mais lui aussi, il nous enseigne. Tout comme on intercède les uns pour les autres, mais lui aussi intercède pour nous. Puis lui, quand il intercède, ben le Père l'écoute. Comprenez? Quand il dit, OK, aujourd'hui, c'est le jour où Benoît va apprendre telle leçon, eh bien, c'est décidé. Et je vais y aller. Et tant mieux si moi, je reçois cette leçon. Sinon, le Seigneur dit, OK, ben, il a appris un petit peu, mais il en a encore besoin. Fait que, OK, on continue. Parce qu'il poursuit quoi? Il poursuit notre sanctification. Ça veut dire qu'il veut qu'on lui ressemble de plus en plus. Fait que si vous avez un mauvais caractère, Jésus, il n'a pas un mauvais caractère. OK? Si vous avez une personnalité atypique, difficile, Jésus, il n'a pas une personnalité atypique ni difficile. Si vous avez besoin d'apprendre certaines leçons, il va le faire. Il va se servir des autres, il va se servir des circonstances, il va se servir de sa parole, il va se servir d'un message un dimanche matin. Mais une chose est certaine, c'est là qu'il veut nous emmener. Alors moi, j'ai compris ça. Ça fait toute une différence dans ma sanctification. Son intercession, et là je termine avec ça, est en quelque sorte la garantie de mon salut, car ce qu'il a commencé, ma justification, il va aussi l'accomplir parfaitement, c'est-à-dire ma sanctification. C'est comme ça qu'il est. C'est pour ça qu'il intercède pour moi, pour que non seulement je sois justifié grâce à lui, mais que je suis aussi sanctifié et que j'y arrive à travers le temps, les circonstances et tout ça. Maintenant, un des auteurs que j'aime beaucoup, John Piper, il dit ceci. Si nous sommes unis à Christ, Dieu est entièrement pour nous et jamais contre nous. Aucune de nos maladies est un jugement contre nous. Ça, il y en a qui ont de la misère avec ça. OK? Aucune de nos voitures en panne ou de nos appareils défectueux est une punition de Dieu. Aucune de nos querelles conjugales est un signe de la colère divine envers nous. Aucun de nos emplois perdus est une punition pour un péché. Aucun de nos enfants rébarbatifs est un coup de fouet de sa rétribution. Non. Mais tout ça, est-ce qu'il s'en sert? Oui. Merveilleux. Gloire à Dieu. Parce que là, il va se servir de ces choses-là pour nous attirer à lui, pour nous rendre encore plus dépendants de lui et nous former justement à son image. Dieu est pour nous, pas contre nous. Il est pour nous en et à travers toutes choses. En et à travers des temps de bonheur, tout comme en et à travers des temps de malheur. Et ça, c'est une vérité importante du vrai christianisme. Réflexion. Je termine avec ça. Quelques pensées. Aussi, j'ai un texte de Dane Ortlund que je trouve très, justement, centré sur la vraie nature du christianisme. Premièrement, l'Évangile va même encore plus loin que ce que les croyants de l'Ancien Testament pouvaient affirmer. On l'a vu tantôt dans le psaume. Dieu est avec nous et Dieu est pour nous. Donc, ici, il y a, je dirais, une part de l'Évangile, mais il manque quelque chose qui est propre à l'Évangile, qui est l'autre partie. Qu'est-ce que l'Évangile, dans quel sens ça va encore plus loin? Que Dieu est pour nous ou que Dieu est avec nous et qu'il est pour nous? Hein? Il est en nous. Voilà, l'Évangile déclare que grâce à l'œuvre de Christ, nous pouvons d'autant plus affirmer que non seulement Dieu est avec nous et que Dieu est pour nous, mais qu'il est en nous et que nous sommes en lui. Voilà l'aspect unique de l'Évangile. Aucune autre religion, même le judaïsme, ne pouvait pas prétendre une telle vérité. Ben oui, Dieu dit est avec nous, oui, Dieu est pour nous, on est son peuple, il nous défend, on est avec lui, on est destiné à qu'est-ce qu'il y a pour nous et tout cela, mais seulement avec la venue de Jésus, seulement à cause de sa mort et de sa résurrection, Jésus dit maintenant, il y a quelque chose de fondamental qui a changé et c'est ceci. Et là, je vais vous lire justement Jean 17, 20 à 23. Et en passant, c'est ça ici qu'il est en nous et que nous sommes en lui. Romains 8, 1 aussi est clair là-dessus. Jean 17, 20 à 23. C'est Jésus, c'est sa prière. Donc, on sait qu'il s'en va à la croix. On sait qu'il a passé du temps avec ses disciples. Il est dans la chambre haute. Et là, il prie maintenant parce qu'il sait qu'il va être crucifié, qu'il va être ressuscité et que tout va changer. Et il dit ceci, verset 20. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, donc, les disciples avec qui il était à ce moment-là, mais encore pour ceux, vous et moi, et tous les autres, pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi. Oh, attendez, j'ai pas mis le verset, excusez-moi. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur donnerai, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, et toi, en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Voyez, ici déjà, Jésus parlait de cette réalité, cette vérité incontournable du christianisme que, comme enfant de Dieu, on est appelé à être un avec lui et que lui va être en nous, tout comme nous, on est en lui. Donc, la bonne nouvelle est que notre union avec Christ nous assure qu'il n'y a donc maintenant, la première, vous en souvenez? Aucune condamnation, les versets 1 à 4. Ensuite, vous rappelez-vous la deuxième? Je sais que c'est loin. C'est en rapport avec le Saint-Esprit. Il n'y a Aucun vide. Le Saint-Esprit est venu faire sa résidence en nous, versets 5 à 9. Ensuite, aucun cul-de-sac. Nous autres, notre vie s'en va dans une direction et on arrive à nulle part où là, whoop, ah, on s'est trompé, c'est pas la bonne route, on s'en va pas dans la bonne direction. Non, nous, on s'en va dans la destinée éternelle, on s'en va dans l'habitation avec Dieu, dans l'éternité. Nous, on vivra pas le cul-de-sac, versets 10 à 13. Ensuite, aucun des héritements, justement, ce qui nous attend dans l'éternité, c'est cet héritage, héritage avec Dieu et co-héritier avec Christ, les versets 14 à 17. On n'a aussi aucune vanité, même si on comprend que le livre des Ecclésiastes dit « vanité, vanité, toute une vanité sur cette terre », mais nous, tout ce qui nous concerne, tout ce qu'on vit, a justement une raison d'être, un but, un sens, et c'est pour ça qu'on peut dire que pour nous, comme enfants de Dieu, il n'y a aucune vanité. Aussi, aucun abandon, jamais Dieu va nous délaisser, jamais on va être laissé à nous-mêmes, on sera jamais seul. Dieu est toujours là. Et en plus, comme j'avais illustré, même si je sens m'éloigner de lui, je peux pas vraiment m'éloigner de lui. Pourquoi je peux pas m'éloigner de Dieu? Ben voilà, il est en moi. Moi, j'ai le sentiment que je me suis éloigné de lui. Mais lui, il vit en moi. Donc, il est tout le temps là. Je comprends que on peut justement, ne pas être à l'écoute, on peut désobéir, on peut être dans une situation où notre communion avec lui n'est pas ce qu'elle devrait être. Mais jamais il va m'abandonner. Il est là, il est venu faire sa résidence en nous. Et comme on a vu récemment, il y a deux semaines, aucun hasard, les versets 28 à 30, on s'en va pour être à la ressemblance de Christ, on est dans le plan du salut de Dieu, la chaîne d'or du salut, comme je vous avais montré, et aucun souci ce matin, versets 31 à 34, parce qu'on a la protection mur à mur de Dieu. Et là, on va terminer comme on a commencé. On a commencé avec aucune condamnation. C'était une des déclarations qu'on connaît le plus. Et je vous dirais, la suivante, c'est une autre déclaration qu'on connaît presque autant que la première, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est, il n'y a aucune séparation de l'amour de Dieu. Rien ni personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu dans les versets 35 à 39. Et là, je termine avec Dane Ortlund, doux et homme de cœur. Deux façons de vivre la vie chrétienne. Saviez-vous ça? Voici ce qu'il dit. Il y a deux façons de vivre la vie chrétienne. On peut la vivre pour ou à partir de. Voyez-vous? On peut la vivre pour ou à partir de. Par exemple, on peut la vivre pour le cœur de Christ, pour gagner son cœur, ou à partir du cœur de Christ. On peut vivre pour gagner le sourire de Dieu ou à partir de son sourire. Pour une nouvelle identité comme fils ou fille de Dieu, alors pour la gagner, cette identité-là, ou à partir de notre identité de fille ou fils de Dieu. Pour son union avec Christ ou à partir d'elle. Voyez-vous la différence que ça fait? Dans un, j'essaie de l'obtenir, dans l'autre, je l'ai. Et je vis à partir de ce point-là. C'est mon point de départ. C'est mon union avec Christ. C'est le cœur de Christ. C'est le sourire de Dieu. C'est ma nouvelle identité en Christ. Il dit, le combat de la vie chrétienne consiste à aligner notre propre cœur. Et là, moi, j'ai rajouté, je pense que c'est une vérité fondamentale, non seulement l'aligner, mais laisser notre cœur être aligné par l'Esprit de Dieu, parce que je pense que j'ai de la misère à faire ça, moi, de m'aligner avec Dieu, mais en tout cas, c'est l'idée qu'il veut donner. Alors, laisser justement l'Esprit de Dieu nous aligner dans le cœur de Christ, sur celui, mon cœur, sur celui de Christ. Ensuite, autrement dit, nous lever chaque matin en remplaçant, et encore là, moi j'ai mis en demandant à Dieu de remplacer notre mentalité d'orphelin, c'est-à-dire de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui n'a pas de relation avec Dieu, par celle d'une adoption complète et gratuite dans la famille de Dieu grâce à l'œuvre de Christ. du fait que je suis accepté, je suis son enfant, je lui appartiens. Jésus, notre frère aîné, nous a aimés et s'est donné pour nous selon la plénitude débordante de son cœur gracieux. Et là, il rajoute ceci, et là, vous ne l'avez pas sur l'écran, mais il dit, si vous êtes unis à Christ, et seule une âme unie à Christ peut se troubler à l'idée de l'avoir offensé, d'avoir péché. Votre égarement ne met pas plus en danger votre place au sein de l'amour de Dieu qu'il est possible de changer l'histoire. Le plus dur est fait. Dieu l'a fait. Dieu a déjà fait tout le nécessaire pour garantir votre bonheur éternel, et cela alors que vous étiez orphelin ou ennemi de Dieu. Rien ne saurait aujourd'hui vous retirer votre identité d'enfant de Dieu et votre héritage. Pas même vous. Ceux qui sont unis à Christ sont éternellement captifs du tendre cœur de Dieu. On lui appartient, comme Jésus dit, on est dans sa main, puis on est dans la main du Père, et personne ne peut les ravir de ces mains-là. Nous ne pécherons plus une fois arrivés au ciel. Amen. Amen. Êtes-vous d'accord? Oui. Amen. Avez-vous hâte? Oui. Yes. Mais voici la vérité centrale à l'Évangile et au vrai christianisme. On ne péchera plus au ciel, mais nous n'y serons pas plus en sécurité que nous le sommes maintenant. Aucun souci. Protection mur à mur. Si vous êtes unis à Christ, c'est tout comme si vous étiez déjà au ciel. Amen. Amen. Prions ensemble. Je vais vous inviter à vous lever, on va prier ensemble. Seigneur Jésus, on vient devant toi ce matin. On vient te remercier, Seigneur, de nous avoir donné autant de sécurité, de nous avoir, Seigneur, emmené dans une relation avec toi que nous, on n'aurait jamais été capable de bâtir. Mais c'est toi, Seigneur, qui nous a emmenés à toi. C'est toi qui nous a attirés. C'est toi qui a ouvert nos yeux. C'est toi qui a ouvert notre cœur. C'est toi, Seigneur, qui nous a séduits par ton amour. Tu nous as convaincus à quel point tu nous aimais et que ton amour sur la croix, on en avait absolument besoin et que sans cet sacrifice à la croix, Seigneur, jamais nos péchés auraient pu être pardonnés. Et tu nous as convaincus, Seigneur, qu'on était perdus sans toi et qu'on avait besoin de toi. Et là, en plus, Seigneur, tu nous dis que ta résurrection et aussi la nôtre. Tout comme ta mort à la croix, Seigneur, tu es mort pour nos péchés. Eh bien, nous, on s'identifie maintenant aussi à cette mort sur cette croix. Et tout comme cette résurrection où tu as montré que tu avais la victoire sur la mort et que tu avais tout accompli, qu'il n'y avait plus rien à faire. Bien, nous aussi, Seigneur, tu nous entraînes avec toi dans notre union avec toi. Non seulement on est mort avec toi, Christ, sur la croix, mais on est ressuscité aussi avec toi, Seigneur, pour une nouveauté de vie. Et même si présentement, Seigneur, on ne vit pas pleinement cette réalité, Seigneur, on sait qu'elle est là, on sait qu'elle s'en vient et on sait que tu es en train de nous former, de nous perfectionner, de nous emmener de plus en plus, Seigneur, à te ressembler. Et pour ça, on te donne toute la gloire. Mais peu importe, Seigneur, tu ne nous aimeras pas plus dans l'éternité que tu nous aimes maintenant. Tu nous l'as prouvé en allant à la croix quand on était encore des pécheurs, on était ennemis, on voulait rien savoir de toi. On voulait vivre notre vie comme si tu n'existais pas. Puis on t'a offensé multiples fois. Et Seigneur, pourtant, tu nous as aimés. Et ton amour est réel. Et c'est cet amour qu'on veut goûter, Seigneur. Et la semaine prochaine, on va voir à quel point que rien ni personne ne peut nous séparer de ton amour. Oh Seigneur, que cette vérité puisse venir se déposer dans nos cœurs et s'ancrer et faire des fruits incroyables, Seigneur, de nous emmener maintenant à vivre en notre nouveauté de vie en sachant qu'on est en sécurité parce qu'on est entre tes mains. Et Seigneur, si quelqu'un ce matin vit avec beaucoup de soucis, beaucoup d'angoisse, beaucoup de préoccupations, il est harcelé de bord et d'autre, Seigneur, des pensées qui viennent de tous côtés, de tous bords, Seigneur, pour lui ramener comment que sa vie est pas correcte, comment sa vie est pas bonne, comment sa vie est pas en règle avec toi, comment, Seigneur, il est pas un bon chrétien, une bonne chrétienne, ou même qu'il est plein de péchés dans sa vie parce qu'il est jamais venu à toi, Seigneur Jésus, que tu puisses l'attirer à toi, que tu puisses lui montrer, Seigneur, qu'en toi, seulement en toi se trouve cette paix, cette sécurité, ce repos. Et Seigneur, que son cœur puisse être impacté par toi, par ta vérité, et qu'il puisse revenir, Seigneur, à cette vérité, qu'il n'y a aucun souci, parce qui peut le condamner? Qui peut l'accuser? Qui peut? Personne, rien. Parce que toi, tu es le juge. Toi, tu es celui qui l'a déclaré juste à cause de ton Fils Jésus. Et personne, Seigneur, ne peut le toucher. On est des intouchables. On est des inébranlables, Seigneur, en toi. Amène-nous, Seigneur, dans cette relation avec toi. On t'en demande, on te le demande par ton Saint-Esprit. Attire-nous à toi. En ton nom, Jésus, pour ta gloire. Amen.